santé.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à C'est bon pour la santé. Aujourd'hui, mon co-animateur sera François Baruel, qui va être avec moi tout au long de l'émission. Bonjour François.
Bonjour Sophie.
Alors, on reçoit Michel Mambara. Il est né au Rwanda et fut des premiers humoristes québécois à nous montrer nos travers comme majoritaires. Et c'était dans un rire qui réunissait. Il se présente rapidement comme celui qu'on affectionne, qu'on va même adopter, comme dans la série « Adopter Mambara » sur Canal Évasion, qui faisait le tour des régions du Québec. On reconnaît sa carrière et on lui remet même un Félix pour le meilleur spectacle d'humour de l'année. La carrière était lancée de manière fulgurante et pourtant, sur le plan personnel, tout s'effronde. Un voyage au cœur de la maladie mentale, où il nous est revenu maintenant plus sage et de plus en plus au fait de sa santé. Il croit toujours que faire rire autrui, c'est magique. Il œuvre d'ailleurs sur un nouveau spectacle. C'est un homme tout sourire et plein d'énergie qui est avec nous aujourd'hui. On prend un temps sage, mais pas trop sage quand même, Michel Mambara pour la santé. Bonjour Michel.
Bonjour Sophie.
Ça va bien?
Merci, je suis très content de vous revoir.
Mais moi
toujours
aussi.
Un plaisir.
Moi aussi. Alors, il s'en est passé des choses. Il y a Michel qui est arrivé quand même au Québec à l'âge de 17 ans.
17 ans, oui. J'habitais à Québec même, secondaire 5. J'ai fait mon cégep au Limoilou, Université Laval, Québec. Et j'ai déménagé à Montréal pour le métier d'humoriste.
Et comment c'était les premiers moments ici vraiment en pleine adolescence, est-ce que c'était agréable de venir là? C'était le froid? Qu'est-ce qui vous a surpris?
Oh non, déjà, nous sommes arrivés au mois de juillet, donc c'était pas le froid vraiment. Et la neige, c'est venu après. C'était une envie. On voulait venir ici. Puis je suis vraiment même content qu'on ait été à Québec pour vivre le choc. Parce que si j'avais été à Montréal, c'est sûr qu'on était dans le ghetto avec les autres, la communauté. Et là, j'étais entouré de Québécois. Et dès les années 90, c'était quelque chose. Moi, j'arrivais ici en pensant que les gens parlent français, puis parlaient allemand, puis au début, on s'est parlé même en anglais.
Et je me suis fait des... anglais,
pour se comprendre, puis je me suis fait des amis tout de suite. Et c'était le choc qu'on vivait, puis moi, je le vivais sans aucune agressivité.
Le rire est arrivé comment dans la vie de Michel? Est-ce qu'il est arrivé en arrivant ici, en se disant je vais être humoriste? Est-ce qu'il faisait rire sa famille? Le rire était comment?
C'est étonnant, il n'y a pas le métier d'humoriste, ça commence à arriver. Mais justement, j'ai été avec ma conjointe polonaise au Rwanda, puis elle riait beaucoup plus souvent au Rwanda, maintenant elle avait vu là-bas. C'est qu'on rit, on est toujours en humour. Et tout en arrivant ici, les chocs, toutes les choses que j'ai racontées aux gens, que la première fois que j'ai vu en Lyon, c'est aux eaux de Granby alors que je viens d'Afrique. et l'effet que ça faisait aux gens, je me faisais accepter à cause du rire. Je vais pousser plus parce qu'il y avait personne qui faisait... J'avais vu Anthony Kavanagh, qui était québécois, mais personne ne parlait de l'image qu'on a des Québécois en tant qu'immigrants. J'étais l'un des premiers à amener ça.
C'est ça, c'est ce que je disais dans l'introduction. C'est celui qui nous a le plus décrit, c'est Michel Mambara, un petit peu dans ses spectacles. Pas une caricature, mais une lecture de ce que nous sommes.
Et ça m'a permis de visiter tout le Québec, d'être accepté, d'être dans une famille. C'est vraiment quelque chose... Et justement, ne plus faire le métier, ça a été un choc. Comme je suis devant un médecin, j'ai pas moins envie de parler, moins envie de consulter pour savoir comment vivre avec le plaisir que j'ai eu à être reconnu puis le retrouver. Parce que vraiment, c'était comme... c'est une drogue, retrouver, avoir l'amour du public comme ça.
Oui.
Et ne plus l'avoir à cause de la maladie. Et le revouloir et dire je travaille pour essayer, c'est un peu ça l'amour du plus, et faire partie de cette famille.
De cette grande famille que vous aviez, c'est-à-dire vous aviez la famille québécoise, mais aussi la famille du show business qui était là, et puis les billets, les spectacles, ça arrivait, les gens, je pense que vous m'aviez dit que vous ne pouviez même pas faire des courses, il y avait l'autographe, tout le monde demandait Michel Mambara.
Justement, c'était... j'ai habité le quartier anglophone à Côte-Saint-Luc parce que c'était un choc. Et après ça, ça m'a manqué. J'étais pas habitué de recevoir cet amour.
Ouais.
Mais jusqu'à maintenant, savoir qu'on existe. Et la phrase que les gens me disent maintenant, c'est « Quand est-ce qu'on va te retrouver sur scène ?»
Ouais.
C'est « Quand est-ce que tu vas exister de nouveau ?»
Ouais. Et ça, il faut le dire, donc c'est arrivé. D'abord, vous êtes un homme extrêmement engagé. En 2005, il y a une espèce de grève de la faim.
C'était ma manière, quand on est choqué, on vit des choses qui sont très dures. J'allais me marier, j'ai été cocufié, puis j'avais mis un avocat de respect qui m'a montré à quel point je me suis fait avoir. C'était facile de m'avoir aussi, j'étais très naïf. Et c'était un choc de comment tu le vis le choc, comment tu réagis à ça. Et malheureusement, je ne savais pas que j'avais un problème de santé mentale. Même on ne parlait pas souvent de problème de santé mentale. Et je n'en connaissais pas, même ceux qui ont entendu qu'ils étaient bipolaires, on pensait que c'était des fous. Et quand j'ai vécu le choc, la manière de réagir, j'ai dit, je vais me faire souffrir encore plus. Et c'était comme un voyage intérieur amusant.
Alors la grève de la faim commence en 2005, sans savoir qu'il y a un problème de maladie mentale, finalement, c'est d'essayer d'aller dans le fond de l'abîme, dans le profond.
Et les gens autour me voyaient la personne de succès. Et étonnamment, moi, quand je fais un regard extérieur de comment j'ai pu avoir l'impression de souffrir alors que j'étais privilégié. Je ne sais pas, c'est cette manière... Non, en quelque part, c'est vrai qu'on vit le choc. Hein, et la manière qu'on le réagit, on ne le sait pas qu'on va réagir de telle façon.
Parce qu'en 2005, c'est Michel Mambara partout qui fonctionne, qui fait de la télé à la planche, qu'on va applaudir, il est connu comme c'est pas possible, et il y a très peu aussi de Noirs, il faut le dire, dans le milieu. Je pense que vous êtes le seul à cette période-là.
En fait, ce qui n'a pas été publié, c'était les chocs que je vivais dans ma vie personnelle. Le choc au niveau de mes affaires, comment ça fonctionnait. Justement, on me voit partout, tout ça, et l'un des gars que je suis allé voir au producteur, est-ce que je peux être payé pour les blagues que je fais? Il dit non, c'est pas drôle ça, ce n'est pas... Non, écoute, moi je suis sérieux, j'entends que les humoristes reçoivent un cachet, est-ce que je peux avoir un cachet comme les autres? Tu veux le même cachet, t'es malade mental, ils m'ont donné des pilules. C'est le seul cachet, c'est cette manière de dire, on t'a donné la chance de faire ce métier-là, ne demande pas à négocier au niveau salaire. Et ça c'était un choc, c'est qu'on me voyait, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui anguille sur le... Et ça c'était très choquant, et en même temps, 3 semaines avant de me marier, j'entends que... Mon ex-conjointe est avec quelqu'un d'autre. On ne sait pas comment réagir. Ah, je me suis fait avoir tout ça là, tout le travail que j'ai mis dedans. C'était le travail que j'ai mis dedans.
Il faut le couple, plus le choc du métier, parce que quand vous dites tu veux être payé pour ça, négocie pas. Si je comprends bien, on dit tais-toi là, tu es assez chanceux de travailler.
De temps en temps, je me dis j'aurais peut-être dû me taire et continuer de gagner le peu que je recevais, qu'après ça, quand on te coupe. Ton métier, puis on fait croire que tu n'es plus aussi drôle qu'avant, parce qu'on doit vendre d'autres artistes.
Ouais,
ouais. Et ça, j'ai compris qu'il y avait la partie show business, c'est très important. Il faut avoir une équipe pour te protéger.
C'est ça. Puis c'était une équipe assez forte, je veux dire. Tous les humoristes passaient par Gilbert Rozon.
Oh, exactement. C'était, et quand il décide de te fermer, il a fermé, il décide que tu n'es plus drôle.
Donc, quand tu n'es plus drôle, il n'y a plus de travail, on se retrouve tout seul.
Étonnamment, comme je suis avec le public aime bien, mais comment ça, on ne te voit plus? Parce qu'il n'y a pas la machine pour te protéger.
Il y a comme une injustice là-dedans.
Oui, mais c'est ça. Et je ne sais pas si les gens le savent. Et ce qui est étonnant, c'est que je ne suis pas dans ma communauté le plus drôle. Mais il y a des gens qui sont très, très drôles, mais ils n'ont pas la machine pour leur permettre parce qu'il y a d'autres personnes qu'on doit vendre, parce qu'il y a des producteurs qui font de l'argent derrière ça.
Ok, on va aller, puisqu'on est une émission sur la santé, on va parler de la journée où vous, par la journée, parce qu'il y a quelques petits exemples qui sont arrivés avant, où il y a une espèce de paranoïa, où vous dites qu'il y a une bombe, il y a quelqu'un qui veut faire sauter une bombe. Je pense que celle-là, ça, c'est arrivé à un moment très, très propice dans votre vie où là vous êtes dit, ok, ça y est, il y a quelque chose qui va pas. Il y a les policiers sont arrivés chez vous et ensuite vous avez découvert comment que vous étiez bipolaire.
Et vous savez, des fois je me demande, parce que j'en parlais avec un ami, il dit, pourquoi vous ne donnerez pas la scène, faire un spectacle, ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'il y a un côté où je me pose des questions moi-même, c'est très gênant de le dire en onde, comment on l'a vécu. Quand je dis, je suis en train de... Je gênais, j'étais dans ma chambre, j'étais en colocation dans le Myland avec d'autres personnes. Et même le coloc s'inquiétait. J'ai dit, écoute, on n'a pas le même âge, j'avais 10 ans de plus que lui. C'est un truc que je gère moi-même. Même l'avocat, elle me dit, on s'inquiète. Il dit, ne t'en fais pas, je gère moi-même. Et j'ai vécu un moment de ma conjointe, elle voulait écouter l'émission. Elle dit, non, c'est assez gênant parce que à elle, je lui ai dit, c'est que j'ai vraiment vécu. Et je me pose encore des questions. Ce n'est pas que je suis en train de me défendre. Et si on regarde en 2005, on regarde la date, comment ça s'est passé. C'est un mardi, j'appelle au 911. Moi, ce qui m'a étonné, c'est comment les gens l'ont su, parce que ça doit être un appel confidentiel. Au 911.
Mais sauf que vous êtes connu, vous oubliez que vous êtes connu.
Mais je n'ai pas dit mon nom, c'est le téléphone personnel, j'appelle. Et comment ça fonctionne? Et vous savez, quand on a un problème de santé mentale, on entend des voix. C'est une des rares fois, c'est gênant de le dire comme... Une rare fois, on me dit... Il y aura une bombe, j'ai entendu la voix. Je le dis quand j'ai dit à ma conjointe, je le dis parce qu'elle ne me juge pas. J'entends ça, puis il dit, appelle, j'appelle. Puis je dis, j'étais mardi, du vendredi, il y aura une bombe. Et on me demande où, là, où, je ne sais pas où. À mon avis, j'étais porte-parole de Vue d'Afrique, il y avait un spectacle vendredi au l'ancien Club Soda. Et après ça, j'appelle, venez m'arrêter, et j'ai eu un des gros fous rires. Je comprenais pas. Et ça prenait du temps avant que la police arrive chez moi. C'est vraiment vers 1h du matin, ce moment-là. Ils arrivent, je dis, mets les menottes. Il dit, Michel, ma bonne, on riait tout le long. Je ne suis pas fou à l'envers. Enfin, ouf. Et là, je me sentais, c'était assez gênant. J'ai envie d'aller rencontrer un psychiatre hein, pour qui juge mon état. On arrive à l'hôpital Notre-Dame sur Sherbrooke. Et tout de suite en arrivant... Et là, ils enlèvent les menottes. Ils disent, mais vous n'êtes pas vite. On riait, c'était un homme et une femme, les policiers. Et on rentre dans une salle, et tout d'un coup, on me met vite sur le lit. Et là, on me dit, attends, comment ça, les policiers, vous m'attachez avec tout le monde autour. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, je vais rencontrer un psychiatre. Dis, mais c'est parce que vous êtes agité. OK, et puis un monsieur arrive, un médecin, je l'ai revu, il arrive avec un seringue. Dis, mais qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Vous me tuez là-dedans. Et là, on me pique. Attends, vous me piquez. Je me souviens très bien ce que j'ai dit. Je vous aime tous. J'ai dit, ah, vous me piquez. Et là, j'ai dormi mardi. Et pendant 3 jours, je me suis réveillé vendredi à l'hôpital. Je me souviens très bien, je me réveille. C'est la première fois que j'ai été hospitalisé pour un truc mental. Il y a une madame noire, une haïtienne. Je la vois, je pars à pleurer. Oh. À pleurer longtemps. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Je ne savais pas où est-ce que j'allais me retrouver. Et ce qui s'est passé, si on regarde vraiment les dates, vendredi, il y avait eu une bombe à Londres. Le troisième, le truc dans le sous-sol, dans le métro à Londres.
C'est fou.
Et oui, vraiment, c'était ça. Il y avait une bombe à vendredi.
C'est fou quand même.
Et là,
ça.
Justement, je vais rencontrer le psychiatre. Il me dit, c'est quoi cette histoire de bombe? Et au début, je blague, c'est le téléphone arabe. Je dis, si je savais qu'il y avait une bombe, je le garde pour moi, je serais complice.
Voilà.
Et là, il me dit, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je vais rentrer à la maison, prendre une douche. Il y a des douches ici. On a des... Est-ce qu'il y a des bons livres? Non, c'est des vieux livres, il y a des vieux magazines ici. Et je suis là à me demander ce que je fais. Je demande à mon avocat, qu'est-ce que je fais ici? Tu peux sortir, je sors. Et il y a eu un autre épisode après ça, parce qu'à un moment, je me suis mis à douter. Et il y a eu 2-3 épisodes où je me suis retrouvé à l'hôpital encore. Une fois, c'est gênant, c'est que quand j'ai vu ça, je me suis promené tout nu dans j'habitais un quartier anglophone. Et c'était assez gênant. Ce qui m'a gêné, c'est que j'ai vu quelqu'un de ma communauté qui me connaît dire « Oh !» Je dis, oh mon Dieu,
vous vous promenez tout nu dans les rues?
Et non, c'était pas tout nu, je savais, c'était moi, je dis, ne l'essayez pas à la maison. Moi, j'appelais ça théâtre de la provocation et théâtre de rue, et je le faisais en coin du rue. C'est comme, c'est mon professeur de théâtre il dit, à quel jeu, pièce tu joues? Et à ce moment, c'était selon moi, je dis, comment ça se fonctionne à ce moment-là? C'est très, très gênant, et je sais pas si vous avez vu, quand je faisais comme une grève, je me fais avoir, je fais une grève. Les jeunes, quand ils ont fait la manifestation étudiante, oui. À un moment donné, ils se sont promenés tout nus.
Oui.
Et là, je vais dans mon coin à l'autre, et quand à un moment donné, j'ai vu quelqu'un qui... La seule moment où je suis sorti de mon personnage, j'ai vu quelqu'un qui me connaissait de ma communauté. Sinon, c'est des anglophones. Appelle la police, dit oui, et la police est arrivée. Il me demande qui es-tu? Et là, je restais dans mon personnage. Ça dépend du nom que vous me donnez. Quand les ambulanciers sont arrivés, et là, le jeu est fini, je dis qui es-tu? Je dis Michel Mambaré, et je me suis mis à pleurer.
Ouais.
Et là, eux, ils m'ont amené à l'ambulance. Ils m'ont amené à l'ambulance. Après ça, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et je sais que c'est à ce moment, quand quelqu'un me dit, Michel, il est pas correct. Et là, moi aussi, je dis, je suis gêné. Et l'une des choses que j'avais dit, je ne suis pas, j'étais pas, c'est, en tout cas, tu promènes, et il fallait pas que je me cache, j'affronte ça. On m'a tout enlevé, je veux marcher dans ce coin de rue pour montrer. C'est une des scènes que j'ai fait que je trouvais plus gênant que l'appel à la bombe même.
Mais alors, après toutes ces scènes-là, quand est-ce qu'il y a une prise de conscience ou quand est-ce qu'on met un mot?
Non, c'est le psychiatre qui t'annonce qu'on est bipolaire.
C'est ça. Tout quand de suite, est-ce que ça a pris du temps avant cette annonce-là? Parce qu'on dit 2005, mais...
C'était une confrontation et dépendamment... Ah. C'est pas tous les médecins avec qui je m'entendais bien, tous les psychiatres. Il y a une madame docteur Granger que j'adorais, que je voulais continuer à consulter, mais elle travaillait à l'interne. Et là, après, je suis sorti de l'hôpital, il fallait que je continue avec un psychiatre à l'externe. Et ce qui c'était comme un choc, c'était en français, il ne me connaissait pas. Et il me dit, pourquoi tu ne retournes pas au travail? Je dis, mais tu veux que je sois gardien de sécurité? Moi, j'ai un métier. Et à un moment donné, il m'a vu dans le journal, il dit, ah, mais vous êtes connu tout d'un coup. Il
a changé son attitude.
Vous changez d'attitude dépendamment. Ouais. Et celle que j'aimais, docteur Granger, elle disait, mais je ne crois plus au jeu des hommes. J'aime bien aller au Cameroun voir les gorilles avec qui je me sens à l'aise, les animaux. Elle avait une certaine lucidité devant ce que je vivais. Je ne sais pas comment, il y avait une certaine compassion. Elle comprenait la bataille que je vais à l'intérieur. Et étonnamment, il y a des choses que j'ai apprises, ça a été un choc. J'ai dit, mais moi, en tant qu'artiste, est-ce que vous direz que Robin Williams est malade? C'était avant que tout le choc arrive. Est-ce que vous direz que Robin, lui, c'est un artiste? Non, Robin Williams est sous la cocaïne. Ah, je ne savais pas. Et puis, il y a des santé mentale. Ah oui, c'était tout un choc. Mais c'était mes idoles. Tous les idoles que j'avais, j'apprenais qu'ils avaient un problème de santé mentale.
Alors, ça allait mieux. À ce moment-là.
C'est paradoxalement, quand il y a eu la campagne Belle Cause, Black Cause, la santé mentale, on a voulu rendre quelque chose d'acceptable.
Même de
dire, oh, tous les stars, si vous ne l'êtes pas, c'est que vous avez un problème, si vous n'avez pas de problème de santé mentale.
Mais le mot bipolarité a été prononcé et accepté quand?
Ah, au début, c'est un choc même, je dis, quand mon psychiatre m'annonce que je suis bipolaire, moi j'ai compris, bien populaire, tu sais. Je sais pas si c'est une maladie.
Bipolaire, bon populaire.
Et ça est accepté quand, étonnamment, quand des gens qu'on respecte, qu'on trouve normal, ont la même maladie, tu dis, ok, parce qu'avant, je pensais que c'était quelque chose de grave et j'avais des préjugés. Et étonnamment, c'est ce qui est dur, quand j'ai annoncé publiquement, il y a une certaine distance. Chaque fois que les gens veulent m'engager, est-ce qu'il ne va pas casser? Mais pourquoi, avant, je ne cassais pas. Est-ce que maintenant, je vais casser parce que vous le savez? Et les gens, en fait, je trouve que les médecins comprennent mieux la situation, je peux dire, que les madame, monsieur, tout le monde.
Ouais.
Parce que quand on a un problème de santé mentale, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on vit tous les jours.
Voilà.
C'est, par exemple, moi, depuis que je suis avec ma conjointe, je n'ai jamais eu de crise. Depuis que je m'occupe de mon neveu, que je dis, j'ai pas le titre de père, mais j'ai la job de papa.
Oui.
Je ne peux pas me permettre.
C'est tellement touchant.
Oh, non, c'est... Par exemple,
est-ce que vous allez toujours leur accompagner à l'école?
Tout le monde, même ce matin, et là, sauf qu'ils sont en semaine de relâche, donc je l'amène au camp, et ils me demandent quand est-ce que tu vas revenir. Et étonnamment, comme ma conjointe va aller en vacances, elle dit, comment je vais faire avec l'enfant?
Alors on a des spécialistes aujourd'hui qui vont être là, des gens extraordinaires, des chroniqueurs, des gens qui sont sur l'émission régulièrement et d'autres qui vont venir parler de la bipolarité avec notre médecin François Baruel.
Thank you.
Alors, il nous fait plaisir de l'accueillir. Un petit moment sympathique et tellement agréable, parce qu'après, on fait ça dans la vie tous les jours, hein, on suit ses conseils. C'est Chantal Goyette de Glam Cosmétique, et aujourd'hui, on lui a demandé, parce qu'on a un homme, de savoir ce qu'on utilise pour les produits, pour les hommes, alors les étapes importantes pour bien prendre soin de la peau quand on est un homme. Bonjour Chantal.
Bonjour. Ben, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épiderme de la peau d'un homme et de la femme ont les mêmes besoins, naturellement. Et les trois besoins de base, c'est vraiment de bien nettoyer, d'exfolier et de hydrater. Donc, on nettoie tous les jours, on exfolie une à deux fois par semaine et on hydrate quotidiennement, naturellement. Donc,
ça, c'est les trois étapes. Exfolier, c'est quoi? Hydrater, c'est quoi une fois exfolier et hydrater?
On commence à la base.
Un peeling.
Exfolier. Ah, exfolier, quoi? Peeling, un peeling, c'est quoi? C'est rasé?
Non. Donc, un exfoliant, c'est comme une crème avec des petites granules dedans.
Ah, donc, c'est ça qui pique, là. Comme des petits cailloux, là.
Ou tout fin, tout léger. Donc, naturellement, pour le visage, sont plus légers, sont plus ronds, sont plus doux. On applique sur le visage en mouvement de rotation et ça enlève nos petites cellules mortes.
Ah. Mais ça, il faut se laver après l'avoir mis tout de suite. Hein?
Il vaut mieux.
Non, mais sinon, ça fait un masque de théâtre.
Idéalement, on nettoie notre visage avec un produit nettoyant spécialement conçu pour la peau, parce que le savon qu'on utilise pour le corps, c'est un petit peu trop abrasif pour le visage. Donc, ça peut affaiblir la barrière, le petit film hydrolipidique. Le film hydrolipidique, c'est notre gras naturel qu'on a sur la peau qui nous protège contre les radicaux libres, le vent, le froid, le soleil, le petit verre de vin aussi. Donc, on nettoie tous les jours avec un savon bien adapté pour la peau. Donc, pour les hommes, souvent, on utilise des gels. Vous aimez mieux souvent le geste, un gel.
Oui, c'était ma question, ça. Est-ce qu'il faut mettre un savon... ils se lavent les garçons, là. J'aime bien les appeler les garçons. Avec le savon, la peau, parce que nous, on se met plein de démaquillants.
Je mets beaucoup, moi, des gels, justement. Ça, je préfère prendre un savon dit de Marseille ou je ne sais pas d'où, d'ailleurs, mais un savon, un pain de savon, je trouve ça, surtout
le
si
cube,
nature,
tout ça, savon le cube, okay, ah oui.
Ça me paraît plus sain parce qu'il y a moins de produits, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça lave mieux.
Mais ça dépend de vos goûts. Certains hommes vont présenter un gel pour le visage toujours. Hein. Que ce soit un pain ou un gel, il faut que ce soit conçu pour le visage. Il faut que ce soit adapté à votre type de peau pour ne pas... Parce que la peau du visage est plus fragile que le reste de la peau de notre corps. Donc, il ne faut pas l'affaiblir. Il faut la nourrir.
Mais une question comme ça, les garçons, là. Est-ce que vous prenez du savon pour laver vos visages, les deux?
Oui, que du savon.
Moi, par exemple, je prends deux douches, pas parce que j'ai besoin, parce que je fais la natation et le yoga. Ouais. Quand tu sors de la natation avec le chlore, il faut se laver. Et là, la peau devient sèche. Heureusement, j'ai entendu un humoriste qui s'appelle Bill Burr en disant que comment ça se fait que les Noirs ont une peau qui reste jeune? C'est que depuis qu'on est enfant, il faut mettre, mon neveu, je vois ma mère qui pousse la crème tout le temps, partout, toute la crème.
Et de la poudre aussi.
J'ai vu mes chums, God, vous trouvez la crème? Ben oui, il faut que je la mette partout. Et la crème de cocoa.
Cacao,
que j'ai une grosse peau que je mets partout. Puis. Et tu vas faire, je fais le yoga quand tu sors de yoga, parce que c'est le yoga chaud, tu sues. Là, je prends une douche avec, maintenant, comme je le dis, tu es rendu très baby boomer. On ne trouve plus ces savons-là. Tu sais, il y a toujours la crème que tu mets partout comme savon. Après ça, je vais mettre un savon, comme aujourd'hui, j'ai mis Nivea, c'est une crème normale, Nivea.
Oui, donc, qu'est-ce qui est bien, Chantal, pour eux, là, les garçons, la crème, le savon dur?
Le savon dur ou le gel, ça n'a pas de différence, pourvu que ce soit conçu spécialement pour le visage.
Okay.
Donc, on ne prend jamais celui de notre corps, puis on le met partout sur le visage.
Ben oui, mais tu sais quoi, c'est le 3 dans 1, là, qui est devenu shampoo, celui de cheveux, quoi. C'est pas ça?
Non, malheureusement.
Moi, j'utilise le 3 dans 1.
Ça peut aussi brosser vos dents, tant qu'ailleurs.
Blanchir les dents.
Donc, seulement pour le visage, c'est mieux, parce qu'il faut prendre soin de votre peau. La peau vieillit, comme la femme aussi. Mm-hmm. Donc, puis l'hydratant, tantôt, j'aimais ça quand vous disiez, bon, oui, j'hydrate bien ma peau. Mm-hmm. Après un sport, vous savez que quand on a chaud, on fait un sport, notre peau élimine les toxines, c'est-à-dire les déchets de la peau. Mm-hmm. En même temps, on perd un petit peu de notre eau. Donc, l'hydratation, la crème pour le corps, c'est le plus beau secret qu'un homme peut faire. Puis, je vais rajouter, tantôt, je parlais d'exfolier, vous m'avez posé une question, puis on n'a pas terminé.
Non, on n'a pas terminé, parce que moi, j'ai une question importante. Comment, les garçons, vous allez dire, Sophie, mais comment prévenir les poils incarnés, c'est-à-dire du rasage? Comment on fait? Non, parce que des fois, on voit, ils ont des petits pansements dessus, ils veulent cacher, il y a quelque chose d'affreux en dessous.
Le premier secret pour prévenir les poils incarnés, c'est vraiment l'exfoliation, de bien nettoyer, de bien hydrater encore l'exfoliation. Mais le premier secret, c'est d'exfolier. Parce que les peaux mortes qui sont accumulées à la peau vont empêcher les petits poils de bien sortir au travers de l'épiderme. C'est pour ça qu'ils rentrent par l'intérieur. Donc, ça fait des poils incarnés. Donc, on exfolie, c'est la petite crème avec des granules. Mmh. Donc, on frotte vraiment bien où il y a la barbe.
Ça prend du temps, hein?
C'est ben vrai, non! On fait ça sous la douche. Vous prenez, pouvez prendre le tube d'exfoliant sous la douche. Donc, en se lavant, on prend un petit peu notre exfoliant. On se frotte comme il faut un petit peu la barbe, le cou. On prévient les poils écarnés.
Après, le savon, est-ce que le savon avant l'exfoliant, qu'est-ce qui vient avant?
Le savon. Le savon est à tous les jours. On nettoie notre peau, on enlève les impuretés sur notre peau qui est là. Et l'exfoliant, c'est une à deux fois par semaine. Donc, c'est quand même bien. Okay. Et je vais peut-être juste rajouter pour ta question, Sophie, pour les poils incarnés. Mm-hmm. Si on rase notre barbe avec un petit rasoir à main, je vous conseille de raser dans le sens de la pousse du poil et non pas à l'inverse.
Ah, c'est intéressant.
Oui, mais ça coupe pas. Non, parce que sincèrement, parce que je sais quand tu fais le contraire, c'est lorsque ça va raser de plus près. C'est pas bon. Hein?
Non, c'est parce que quand on rase de contraire, à l'inverse, la repousse du poil, la repousse poil, donc ça va un petit peu trop en profondeur et le poil risque de pousser plus vers l'intérieur, ce qui fait le poil incarné finalement.
Voilà. Étonnamment, moi, je rase aussi la tête et j'ai tendance à aller au sens contraire pour raser le plus près. Et ça fait mal,
Oui, vous devez avoir des petits poils incarnés de temps en temps.
Justement, on a des rasoirs avec 3, 4, 5 lames pour raser de plus en plus près.
Oui, et vous savez qu'idéalement, on doit toujours utiliser un rasoir avec une lame.
Ah oui?
Oui, parce que plus qu'une lame, c'est là que ça va... En dessous, c'est pas bon.
Ça, c'est important.
Beaucoup de choses avec Chantal.
Ça, c'est important.
Dernière question. Est-ce que on doit appliquer les hommes là? Parce que c'est pour eux aujourd'hui. Hein?
Oui.
Pour Michel,
oui.
Et
c'est intéressant de voir l'enthousiasme de la beauté avec les hommes.
Alors, est-ce qu'on doit prendre une crème hydratante tous les jours, en 10 secondes là?
Oui, une crème hydratante tous les jours parce que notre crème hydratante protège contre les agressions extérieures, garde la bonne hydratation à notre peau et c'est ce qui garde l'élasticité, prévient les rides.
Alors, et j'avais dit que c'était le dernier 10 secondes, mais oui ou non seulement, crème pour la barbe ou pas?
Oui. Ah oui. Oui, un après-rasage, absolument.
Ah, après, moi je
pense pour la mousse.
Absolument, parce que ça adoucit un petit peu le poil et le rasage se fait de plus près.
Alors, beaucoup de crème. Merci Chantal Goyette.
Merci.
Laisse-moi t'arracher de ceux qui s'inventent des dieux. Si je t'en mets dans le bois, l'endroit où t'es le mieux. Puis après de bonnes bouffées d'air, tu me diras ce que je peux faire. Parce que là, tu t'enfonces et j'ai pas de réponse. Tu fabules, tu délires et je sais pas quoi dire. Tu trembles, tu maigris, t'as le teint pâle et gris. Tu changes et je m'ennuie de mon meilleur ami. Je fais quoi? J'attends de devenir folle pour voir ce que tu vois. Toi, qu'est-ce que tu fous? On dirait que tu décolles et que tu deviens fou. Face cachée de ton visage, comme les traits effacés sous une belle image. Je lis dans tes yeux comme dans un livre ouvert, et même si tu le refermes, je peux lire au travers. Et là je le vois, tu t'enfonces à chercher des réponses. Tu fabules, tu délires, plus rien ne te fait rire. Tu mens, tu oublies, t'endors plus la nuit. Tu bois et quoi encore? Le nord. Moi je fais quoi? J'attends de devenir folle pour voir ce que tu vois. Toi qu'est-ce que tu fous? On dirait que tu décolles et que tu deviens fou.
Bonjour Madame Linda Leclerc.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous?
Très bien. Alors je vois que vous êtes, je vous connais comme experte en bonne humeur et joie de vivre. Conférencière, formatrice, école du yoga, du rire.
Oui.
Ça en fait des titres, hein?
Oui, ça en fait long.
Alors racontez-nous quels sont les bienfaits du rire. Qu'est-ce que ça apporte?
Mon doux, je ne sais pas trop par où commencer, alors je vais faire dans le sens du corps. Je commencerai peut-être par la première chose, c'est que ça vient masser nos organes internes. Rire, ça nous permet justement de se dilater la rate, qu'on dit, mais nous, en yoga du rire, on dit que rire, ça défrippe parce que ça masse le foie, la rate, les intestins, le pancréas, l'estomac. Tous nos organes internes peuvent avoir un bon massage à cause de l'action du diaphragme et des vibrations, justement. Le diaphragme va aussi avoir un impact sur le travail de notre système lymphatique en faisant circuler la lymphe plus rapidement, qui ramasse les toxines un peu partout dans notre corps et qui vient les forcer à se filtrer dans les endroits où il y a des stations de filtrage. Mm-hmm. Ça change la respiration parce que au moment où on rit, on s'en aperçoit très peu, là, mais quand on rit, il y a beaucoup d'air qu'on expulse, on inspire, on expire, et ça permet de nettoyer bien comme il faut nos voies respiratoires. Il y a plus de muqueuses dans les voies respiratoires, on développe des anticorps, ça permet justement de bien combattre les virus. Pauvre monsieur Benoît aujourd'hui qui est
oui,
enrhumé.
Ben oui. Oui. On va lui conseiller de rire.
À rire plus. L'autre chose qui se passe dans notre corps aussi quand on rit, c'est que le cœur il se met à battre plus vite. Mm-hmm. Alors les battements cardiaques étant accélérés, ça permet au sang de circuler plus rapidement dans notre corps, mais l'intérieur des artères se dilate aussi. Alors le sang va circuler beaucoup mieux. Ça facilite la circulation sanguine.
Tout ça, c'est organique. Et est-ce que vous avez remarqué chez vos clients ou vos patients, c'est à se demander d'ailleurs si c'est pas plus des patients, est-ce qu'ils vont mieux d'un point de vue humeur?
Oh mon Dieu, je suis la première à pouvoir vous en témoigner.
Ah. En fait, c'est Michel Mambala, je voudrais savoir comment
bonjour,
ça fonctionne.
Michel.
Bonjour. Est-ce que vous faites du yoga en riant?
Mais c'est exactement ça. Le yoga du rire, en fait, ça s'appelle yoga parce que ça vient de l'Inde. Et mm-hmm. En Inde, le yoga s'est pris très au sérieux. Les fondateurs, c'est un médecin et sa femme, professeur de yoga. Mm-hmm. Et ce qu'ils ont réalisé en faisant des exercices de rire, c'est justement que en riant, on va d'une certaine manière pratiquer des respirations yogiques. Parce que, en yoga, c'est le mot yoga signifie union. Et mm-hmm. ce qu'on fait en faisant les exercices de rire intentionnels, c'est justement on connecte notre esprit avec notre corps parce que bien.
Ah, vous faites du yoga et vous faites rire vous-même. C'est pas comme si un humoriste qui vient devant vous qui vous dit c'est une fois un gars, non.
Non. Mais en fait, c'est même pas du yoga hein, parce que les gens parfois ils me disent est-ce qu'il faut porter des vêtements spéciaux ou on va faire des postures. Non, pas du tout. C'est la partie yoga, c'est vraiment pour la respiration. La partie en fait qui est la plus importante
c'est le rire.
C'est rire. Uh-huh. Parce que ce qu'on fait, c'est du rire intentionnel. Donc on pratique des exercices. On fait rire. En fait,
justement.
On rit comme si c'était un exercice physique.
C'est ça le rire intentionnel. En fait.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous appelez le rire intentionnel?
Ben, on décide de rire. Donc, on place notre corps dans l'action du rire. Mm-hmm. C'est comme souvent ce que je dis aux gens, je leur dis, quand on fait du vélo stationnaire, on va nulle part. Mais on continue à faire du vélo stationnaire parce que c'est bon pour notre santé, ça fait travailler nos muscles, notre cœur, nos poumons. Mais quand on fait le rire intentionnel, c'est la même chose. On rit de rien, mais ce qu'il produit, c'est éventuellement, ça vient assez rapidement parce que plus on le pratique, plus ça devient naturel. Notre rire qu'on décide de mettre en action au début,
bien sûr, ouais.
Ça devient naturel. Mm-hmm. Et rire, ben vous le savez, Michel, quand quelqu'un se met à rire dans une salle, les autres...
Oui, oui, c'est l'effet...
C'est contagieux.
Oui, exactement.
Moi, ce que je dis souvent, c'est moi, je m'entraîne à rire plus. Donc, quand il se passe des choses moins faciles dans la vie, quand je suis contrariée, quand j'ai des coups durs, peu importe, ou quand il y a des choses drôles, mon corps va réagir plus rapidement au rire, mais il va surtout moins se laisser descendre dans la spirale de...
Mais êtes-vous debout, assis, coucher quand vous êtes dans...
En fait, on peut être n'importe comment. Quand on fait les exercices au départ, c'est des exercices qu'on peut pratiquer debout. Mm-hmm. Mais moi, je travaille autant avec des personnes à mobilité réduite, donc c'est des personnes en fauteuil roulant ou qui ont des paralysies partielles, peu importe. Là. Puis la méditation du rire, ça, c'est comme un fou rire de dortoir.
Et quelle est la clientèle que vous avez? Excusez-moi. Quelle est la clientèle que vous avez? Quels sont les âges?
Ben c'est très vaste parce que je travaille autant avec les enfants dans les écoles primaires, les garderies, mais ça, c'est plus rare. Mais ça arrive quand même qu'avec les seniors, des personnes, même j'ai des centenaires parfois dans mes groupes, c'est des personnes au travail qui vont avoir une activité de santé mentale, bien-être au travail. C'est des équipes de travail qui décident qu'elles donnent un moment pour faire ensemble. C'est des gens qui viennent dans les clubs de rire justement pour pratiquer parce que ça va vite, on est stressé, on est sérieux. C'est bien souvent pas très valorisé, quelqu'un qui rit beaucoup, alors qu'on en a tellement besoin dans la vie.
Ah, ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai, on rit de moins en moins. Est-ce que le yoga est absolument nécessaire pour pouvoir rire comme vous le faites faire?
Non. En fait, la partie yoga, comme je vous le disais, c'est parce que c'est un médecin et sa femme qui est professeur de yoga, et en plus ça, yoga du rire. Et ce qu'on fait finalement, c'est très simple, on respire, on rit, on s'étire.
D'accord.
C'est vraiment pas compliqué. Puis quand les gens ont la mobilité réduite, si quelqu'un, moi je dis souvent, si c'est pas disponible, forcez pas, faites-le juste pas. Donc on encourage les gens à s'étirer, à lever les bras dans les airs, à s'étirer, mais si ça c'est pas disponible, ils font juste pas.
Il y a une position que je voudrais vous conseiller parce que ma conjointe est professeure de yoga, puis j'avais fait, il y a une position bébé heureux, je sais pas si vous le connaissez.
Bébé heureux?
Où, sur le dos, on tient les jambes en l'air, et puis quand on fait, déjà quand on est dans cette position, c'est drôle, on rit.
C'est vrai, bébé heureux. Une posture comme de détente un peu. Moi, j'encouragerais ça pendant la méditation du rire, justement. Parce que les séances de yoga du rire, pour le trois quarts, on les fait debout. Quand on arrive à la fin, à la partie méditation du rire, c'est ce que je disais, ça, c'est comme un fou rire de dortoir. Là,
c'est
les gens rient. On rit tellement. C'est un fou rire naturel. Parce que ça fait 45, des fois, ça fait 20, 30, 40, 45 minutes qu'on fait des exercices où on s'efforce de rire. Donc, on y met l'énergie puis l'intention. Mais quand on arrive au sol, on voit plus les gens. Tout ce qui se passe, c'est que là, on les entend.
Quand on est fatigué, on rit plus facilement. Quand tu as fait l'effort, puis après ça, le rire, on se relâche facilement.
Est-ce que tout le monde peut rire, à votre avis?
Oui. Il suffit de le décider.
Il suffit de le décider?
Oui, même dans les journées où ça va moins bien. Moi, j'ai fait un défi sur Facebook en direct. Là. Je l'ai fait pendant 40 matins pour avant les fêtes, justement, pour faire un test avec les gens. Puis je leur disais, il y a des jours, ça me tente pas. J'ai pas envie de rire. Je veux pas. Je trouve rien. Mais c'est justement ces matins-là que je crois que ça m'a été le plus salutaire.
Ah oui, d'accord. Ah oui, parce que j'imagine. Parce que c'est justement le moment où on n'en a pas envie que c'est le plus efficace, puisqu'on est plutôt triste.
Oui, parce que moi, je suis comme tout le monde. J'ai des journées où je suis très sérieuse, des journées où ça file pas, des journées où je suis un peu triste. Je suis comme tout le monde. Mais je sais que à pratiquer cet exercice-là, ça va stimuler quelque chose de joyeux dans mon cœur.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un surdosage de rire possible? Est-ce qu'il y a un risque?
Surdosage.
Oui, est-ce que vous pensez que d'avoir de rire trop, c'est dangereux pour la santé?
Je pense qu'on meurt plus parce qu'on rit pas, plus qu'on mourrait parce qu'on rit trop. Je crois pas.
D'accord.
Je crois par contre que quand on... Ça, je le sais, là, pour l'avoir vécu, parce que parfois, quand tu ris tellement, après... Il y a des personnes qui m'ont rapporté, puis moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Après, je pleurais un peu. Surtout dans les moments où je vivais des choses difficiles, des deuils, des amis proches qui étaient... À ces moments-là, j'avoue que j'avais ri beaucoup, puis après, je pleurais un peu. Mais ce que je me disais, c'est... Oh, pendant l'heure où j'étais avec le groupe, pendant le moment où je riais, la vie continuait. Et puis, au moins, ça m'avait permis de respirer. Ma peine, mon chagrin était encore là, mais je voyais que dans mon cœur, j'avais la joie d'avoir eu ces personnes-là dans ma vie. J'étais reconnaissante aussi d'avoir pu expérimenter autant quelque chose d'aussi positif à travers un moment qui était aussi difficile.
Oui. Écoutez, c'est vraiment très intéressant ce que nous découvrons là avec cette rirothérapie ou la rigolothérapie.
Alors moi, j'appelle pas ça de la thérapie. C'est vraiment du yoga du rire, mais c'est thérapeutique.
Ah, voilà, on est d'accord.
Ouais, on est d'accord.
Donc, écoutez, merci beaucoup, Linda Leclerc. C'est vraiment très agréable de vous avoir entendu avec nous.
Ça me fait très plaisir.
Merci, Linda.
Je vous souhaite de sourire beaucoup à chaque jour.
Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir.
prend ce temps pour oublier. On a brillé le monde à l'envers. Tu m'as volé, on m'a brisé le cœur for the money. All I know is it eats me alive. Tôt ou tard, on se contredit.
Bonjour Marie-Ève Coton.
Bonjour.
Vous êtes ethnopsychiatre et psychiatre en fait.
Oui.
Et nous avons donc avec nous Michel Mombara.
Bonjour.
Bonjour.
Qui présente une bipolarité. Quel est, à votre avis, l'âge à laquelle la bipolarité apparaît ?
La moyenne, parce que ça peut en fait apparaître à n'importe quel âge, dans l'âge adulte, et ça peut même commencer à l'adolescence ou même parfois en rétrospective, on voit des débuts durant l'enfance. Mais la moyenne pour la maladie bipolaire de type 1, parce qu'il y en a deux types, c'est 18 ans. Et puis la moyenne pour la maladie bipolaire de type 2, c'est 25 ans. Donc c'est au début de l'âge adulte en moyenne. Et les gens, par contre, ne consultent pas nécessairement quand ça commence parce qu'ils ne savent pas nécessairement que c'est une maladie. Si c'est une hypomanie, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu high, un petit peu euphoriques, ce n'est pas très souffrant, cet état-là. Donc, ça va moins les porter à chercher de l'aide que la dépression.
J'aimerais savoir la différence entre type 1 et type 2, pour savoir dans quel cas.
Oui, tout à fait. Le type 1, les gens vont faire ce qu'on appelle des manies, c'est-à-dire une période d'euphorie, de grande énergie, la pensée va être plus rapide, ils vont avoir besoin des fois juste de 2-3 heures de sommeil, ils vont être en forme. Ils peuvent avoir aussi des symptômes de psychose, c'est-à-dire perdre le contact avec la réalité, et ils peuvent avoir des épisodes dépressifs aussi. Dans le type 2, quand ils ont les highs, quand ils sont euphoriques, ça ne monte pas aussi haut. Ça ne va pas monter assez haut pour, par exemple, leur engendrer des problèmes financiers parce qu'ils ont fait des dépenses dans le contexte du high où on n'a pas la même considération les conséquences de nos gestes. Ils vont souvent être quand même capables de travailler. Ça ne sera pas aussi, assez intense comme symptôme pour requérir, par exemple, une hospitalisation ou les empêcher de travailler. Donc, c'est une question d'intensité des highs qui fait la différence.
Ah, donc le 2 est moins grave que le 1?
Dans le 2, les highs sont moins forts, sont moins sévères.
Et justement, quand j'ai entendu, j'ai vécu même le 1 et le 2, et même le 2, je le trouve moins intéressant, parce que quand on est c'est des artistes dans la période de high, on peut être créatif.
Oui.
Et même dans la création de ce moment, que ce moment où je pouvais avoir des idées, mais quand on est down, on est très down aussi, c'est ça.
Oui.
Mais le type 2, à quoi ça sert d'en parler, vu que ce n'est pas si grave que ça? Comment on peut le ressentir? C'est pour savoir à quel niveau je suis présentement.
Les dépressions vont être aussi sévères que dans le type 1. Mmh. Les manies sont moins fortes, donc elles vont engendrer moins de conséquences dans la vie de la personne au niveau de ses relations interpersonnelles, de son travail, de son besoin d'hospitalisation. Mais les dépressions, elles, sont aussi sévères. Mmh. Donc, ça reste quand même des gens qui sont souffrants. Puis les highs, quand même, ça peut les amener à s'épuiser aussi, parce que quand on est high, on fait beaucoup, beaucoup de choses condensées. Là.
Qu'est-ce qui peut provoquer? Qu'est-ce qui provoque l'apparition de cette maladie? Est-ce qu'il y a des facteurs déclenchants?
Oui, on sait que, bon, les gens qui ont un bagage génétique dans leur famille, qui en ont dans leur famille, sont un peu plus à risque de le développer, mais on ne connaît pas la cause précisément. Ce qu'on sait qui peut déclencher un épisode chez une personne qui a une vulnérabilité, c'est par exemple des gros stresseurs dans leur vie, des choses difficiles, l'adversité dans leur vie, vivre un événement qui est drainant, qui est pénible, etc.
On ne peut pas dire que c'est génétique réellement.
C'est-à-dire que s'il y en a dans la famille, ça augmente un peu le risque chez les parents, les enfants, tout ce qu'on appelle les parents du premier degré, du deuxième degré, ça augmente un peu leur risque de faire soit de la bipolarité eux aussi ou de faire des dépressions.
Mais ils n'en feront pas forcément.
Ils n'en feront pas forcément et ce n'est pas une hausse non plus spectaculaire.
C'est ça.
Et il y a plein de gens qui développent la maladie et il n'y avait personne dans leur famille qui en souffrait.
J'aurais une question sur le côté ethno-psychiatre, parce que je ne sais pas si c'est même vous que j'ai entendu dans une entrevue que dans certaines cultures, ce qu'on peut considérer comme une maladie est un don.
Oui, absolument.
Et même quand j'ai entendu ça, ça m'avait un peu déprimé en disant, je parlais à mes collègues, on se fait avoir, on ne peut plus avoir un truc, on dit c'est un don, ils l'ont mis dans une case justement. Oui. Et si je parle, par exemple, de l'époque de mon appel à bord mardi, vendredi, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais compris ce qui s'est passé à moi. Je suis tombé dedans, je ne savais pas.
Oui.
Et dans nos cultures, et ça m'est déjà arrivé, on dirait quelque chose qui va arriver, et ça arrive.
Oui.
Et souvent, si on est entouré de notre entourage, ils vont dire, continue, on va développer ce côté-là, on n'a pas donné des pilules pour ne plus avoir des visions.
La prémonition.
Ou même d'entendre des voix. Ce n'est pas, est-ce que c'est supposé être, je me rappelle quand même en psychiatrie, j'ai dit, je veux les entendre pour sentir les connecter comme une antenne.
Okay.
Mais si on peut les contrôler, parce qu'il y a certaines personnes où justement, le manque de contrôle, quand tu entends, tu vois quelqu'un se parler tout seul, c'est qu'il n'est pas en contact avec la réalité.
Tout à fait. C'est très intéressant ce que vous amenez, puis moi je le rencontre, je travaille au Nunavik avec les Inuits, et eux, ils ont une spiritualité plus présente que nous et différente. Et je le vois parfois, des gens qui entendent des voix, effectivement, dans l'esprit, dans la vision médicale, c'est un problème qu'il faut traiter, etc., la psychose. Mais parfois, les gens vont avoir l'interprétation que c'est un don chamanique qu'ils ont, qu'ils entendent des esprits, parce que ça faisait partie de leur spiritualité à l'origine. Et il y a beaucoup de patients qui, parfois, c'est pas qu'ils ont un rejet complètement de l'idée d'une maladie, parce que quand c'est trop fort, ils en souffrent ou ça les empêche de dormir. Donc ça, c'est la partie qu'ils veulent traiter. Mais ça m'est arrivé des patients qui me demandent de monter les médicaments, mais de ne pas les monter trop haut pour pas que les voix s'en aillent complètement.
C'est comme dans certaines maladies, comme la maladie Tourette, où il y a des patients qui demandent de ne pas prendre les médicaments pendant le week-end pour pouvoir être toujours un Tourette et être toujours drôle et avoir la répartie, être bon au tennis ou au ping-pong, et qui, pendant la semaine, dans le travail, prennent leurs médicaments pour ne pas l'être. Mais d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas beaucoup de bipolarité dans les pays d'Afrique. Il y en a moins, si je comprends bien.
La maladie, en fait, il y a peu d'études qui sont faites dans ces pays-là sur la maladie mentale, mais on sait que le milieu social et culturel détermine beaucoup comment la détresse psychologique va se manifester. Parce que la
Est-ce qu'on peut dire protège?
Oui, il y a des facteurs protecteurs. Et il y a aussi que c'est comme si la culture, les maladies ou les façons d'exprimer un mal-être dans la culture, les gens la comprennent et ils vont comme instinctivement prendre ces façons-là. Par exemple, la dépression, comme nous, on la comprend, donc être triste, pleurer, ne plus avoir de plaisir, d'intérêt, tout ça. Dans beaucoup de cultures, on ne voit pas ça. Ça ne se présente pas de cette façon-là. Le mal-être va se manifester plus par le corps. Ils vont avoir mal au ventre, mal à la tête. On ne trouvera rien au niveau physique pour expliquer ça, mais c'est la façon pour eux d'expliquer le mal-être. Dans les facteurs, par contre, protecteurs que vous mentionnez, la solidarité communautaire, la solidarité familiale, le fait que les gens aient des liens sociaux forts, ça, c'est un facteur de protection par rapport à la dépression et probablement que l'individualisme de notre culture est un facteur qui nous met à risque.
Dans la bipolarité qui nous occupe, autrefois, elle s'appelait la psychose maniaco-dépressive. Oui. Comment se caractérise la psychose, en fait?
La psychose, ça peut survenir... La psychose, c'est une perte de contact avec la réalité et ça se manifeste soit par des hallucinations, donc le plus souvent auditives, les gens vont entendre des voix, des sons que les autres n'entendent pas, ou ça peut être visuel aussi. Et puis, ils vont avoir aussi des idées délirantes, c'est-à-dire des croyances qui ne font pas partie de la réalité, là, donc l'impression que...
On va se faire attaquer.
Exactement.
On est observé.
Vous êtes observé, suivi dans la rue, etc. Et ça va se manifester assez souvent dans les épisodes de manie sévère ou de dépression sévère. Ça peut survenir et c'est pas quelque chose de rare. Donc, ça ne survient jamais dans l'hypomanie, c'est pas assez fort pour aller là. Mais dans la maladie bipolaire de type 1, dans les manies, c'est assez fréquent que les gens vont avoir ces symptômes-là, en plus des symptômes de manie qui sont l'euphorie, l'accélération, l'hyperactivité, etc.
Et la sensation d'être plus fort que tout le monde.
Exactement. Une question qu'on a demandé, par exemple, c'est quand est-ce qu'on détecte la bipolarité? Et avec mon psy, on a découvert que même j'ai accepté que je suis né bipolaire.
OK.
Dépendamment, quand on dit, par exemple, quand un changement, on est né, j'ai vécu, dans mon famille, surtout dans la famille, il y a ma soeur qui est schizophrène. J'ai une soeur qui est très fonctionnelle, elle travaille dans un hôpital, puis elle a dit, j'ai bipolaire. Et en disant, quand je suis né réfugié, avec un choc de ne pas accepter que, on a dit, je suis rwandais, mais je suis né au Burundi. Okay. Et 3 ans après, mon père est décédé alors que c'était mon modèle. Et c'est des chocs que le corps vit et on le réagit. Moi, je sais que l'humour m'a protégé à ne pas accepter la réalité. Mais c'est vraiment en regardant ça, il y avait un changement qui faisait, mais on était toujours protégé par la famille, on sait qu'il est comme ça. Donc, quand je sais qu'au cégep, il y a la science pure et les médicaments et les sciences humaines. L'humain, au côté de l'entourage, moi, avoir une conjointe qui me fait sentir que j'existe, c'est beaucoup. Et par exemple, si je suis dans un groupe qui me valorise,
oui.
Je disais même, par exemple, les gens qui font le métier, on a appris qu'il y a beaucoup de gens ne l'expriment pas, qui ont un problème de santé mentale. Tu as l'entourage du public, tout d'un coup, ils s'en vont, c'est comme le choc. Même, on le dit, quand tu es sur scène, il y a 1000 personnes, puis après ça, tu te retrouves à l'hôtel tout seul. Ce changement beaucoup d'immigrants même vivent un choc parce qu'on n'est plus dans la même façon de vivre. Et,
tout à fait.
C'est ça que je voulais dire.
L'immigration, c'est un gros, gros, gros... stress, c'est un gros défi parce que tous nos repères sont chamboulés. Les repères qu'on avait dans la vie, les valeurs, la façon de vivre des gens, comment les gens interagissent entre eux. Donc, c'est énorme s'adapter à un nouveau pays.
Se reconstruire,
exactement.
Merci beaucoup, Marie-Ève Cotton.
Ça m'a
c'est
fait
vraiment
plaisir.
Très, très intéressant.
Ça m'a Merci. Fait plaisir.
En remplacement de Benoît Rasset, François Baruel est là avec moi aujourd'hui, mesdames, messieurs. On est toujours avec Michel Mambara. C'est la section, Michel, où on voit un petit peu ce qui a fait la problématique, la santé mentale à votre milieu artistique. Est-ce que vous trouvez qu'au niveau de même financièrement, l'Union des artistes a une couverture? Est-ce que l'Union vous a pris en charge? où il n'y a rien du tout. C'est le néant. Quand on est artiste et qu'on apprend qu'on est bipolaire et que finalement, le milieu...
Sincèrement, je dirais l'erreur, que ce n'est pas une erreur, hein, le défaut, c'est que j'ai été populaire vite et tu as une machine qui s'occupe de tout. Et là, vous pensez performer, et quand la machine quitte, on ne sait plus à qui s'adresser. Déjà, l'Union des artistes, les chèques n'allaient pas à mon nom, ça allait à la compagnie. Et après ça, quand on décide, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que l'Union peut nous aider pour les assurances et tout ça, et que je ne sais pas en profiter comme il faut. Parce qu'on n'a pas une formation, puis peut-être qu'on n'est pas aussi, et on est moins administratif, le côté administratif est moins là. Je me rends compte avec ma conjointe qui me dit, il faut que tu t'occupes de tes affaires, savoir est-ce que tu es une compagnie ou tu es, tous ces trucs-là, et surtout quand on n'a pas, je n'aime pas me vanter de ne pas savoir quelque chose, alors que si tu prends le temps, j'ai quand même une certaine formation académique, mais sauf que c'était un lettre, n'est pas le côté administratif. Le bon côté, je pense, un bon artiste quand il est associé, tout bon artiste qu'on voit, c'est qu'il est associé avec des gens honnêtes qui s'occupent bien de leur travail.
Okay, et donc...
très rare de voir un artiste tout seul s'occuper de l'administration et de faire l'art et d'y arriver.
Et le fait de l'avoir dit dans le métier, à partir du moment où vous le savez, est-ce que la question qui tue, comme dirait l'autre, est-ce que ça vous a empêché de travailler? Est-ce que vous croyez que les producteurs ont dit, ah ben là, maintenant qu'il a dit qu'il était bipolaire, on ne va pas l'engager pour un spectacle qui ne sera pas fiable?
Avant qu'on fasse cette émission de radio, justement, j'y pensais parce que c'était sur la santé. On m'a demandé comment je vais. Et Madame Stanker, on se connaît bien, je n'aime pas. Si je veux avoir des radios commerciales, je dis, oh, ça va très très bien, c'est super! Ouais! Puis, même fois, quand j'arrive sur scène, je demande au public, vous allez bien? Tout le monde fait, ouais! Waouh, gang de chanceux! Comment, sinon, mais on regarde les détails. Il y a des semaines, puis je parlais avec d'autres qui sont très, très durs en disant, tu n'es plus dans la gang.
C'est terrible,
et pourtant, j'ai une création, à qui la présenter? Parce que quand tu es dans la gang, déjà, on veut que tu présentes quelque chose que tu n'as même pas eu le temps de créer. Là. Tu es là, même des fois, je dis, attends, je n'ai pas créé. J'ai beaucoup de trucs que je pouvais faire, mais ça passe et je n'ai pas eu la chance de le présenter.
Donc, ne plus être dans la gang parce que on a eu une étiquette de maladie, est-ce que c'est ça?
Je voudrais me permettre aux gens de dire, on a vu Michel, il n'est plus bon. On ne peut plus me permettre, parce que souvent, on a des compliments qu'on me dit, tu as arrêté alors que les gens aimaient bien ce que tu faisais. C'est pas comme si c'était plus assez bon pour... Comment ça se fait? Et les gens du milieu décident qu'est-ce qui est bon, parce qu'ils vont voir combien d'argent je vais faire sur lui. Il n'y a pas de bénévolat là-dedans. Je pense pas que tout le monde travaille à vendre leur personne. Et justement, le public, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Mais ceux qui vendent, ils ne sont pas pour dire ce qu'ils aimeraient bien. Nous sommes ces artistes-là, on va les vendre. On va pas se lever, ils travaillent pas pour nous, pourquoi je le mettrais dans la groupe?
Mais en fait, maintenant, avec votre bipolarité traitée, vous êtes aussi drôle, à votre avis, aussi drôle qu'avant.
Et je peux le dire, vraiment, je fais des spectacles. Dernièrement, d'ailleurs, je l'ai fait avec d'autres humoristes. Ils étaient étonnés de savoir, mais t'es drôle. Oui, mais j'ai personne pour me vendre.
D'accord.
Et je passe du temps.
Le temps d'arrêt pour s'occuper de vous, ce temps-là, les gens, ça a comme été, oh ben, il est sorti de la game alors que vous n'êtes jamais sorti.
Mais justement, non, parce que je n'ai pas un groupe pour me vendre. Et je suis sorti. Et là, moi, en fait, je pensais qu'on pouvait sortir. Et puis quand tu essaies de retourner, et c'est plus difficile. Mais en même temps, c'est pas un abandon. Et on cherche les moyens pour se faire remarquer sans trop de faire. Et d'où je veux faire des vidéos et tu le mets sur Facebook, tu es ton propre producteur.
Et quand quelqu'un dans la rue vous dit, Michel Mambara, j'aimerais ça vous voir davantage, qu'est-ce que ça vous fait? Faire le marché puis avoir du monde, vous étiez mettre ça au passé au lieu du présent.
Oui, mais c'est très, des fois c'est dur à dire, tu étais drôle. C'est souvent ça, tu étais drôle, de qui sait, peut-être que je suis encore drôle.
C'est ça. C'est comme tu étais belle ou tu étais beau.
Et je sais, c'est une insulte pour ma conjointe qui est très jeune, qui m'apprécie, qui me trouve drôle. Elle n'a pas pris quelqu'un qui était drôle, elle ne m'a même pas connu quand
alors j'étais... Alors vous dites, je suis encore drôle, monsieur?
Je suis encore drôle, mais non, je n'ai pas...
Toujours drôle.
Je n'ai pas le choix de ne pas être drôle, et de temps en temps, je ne sais pas, ça dépend du cas par cas. Mais en même temps, souvent je reçois, je ne suis pas... souvent les gens vont me dire « Comment ça, on ne te voit plus ?» Mais pourtant, vous me voyez, mais on ne me voit plus à la télé.
Et quand vous avez fait la publicité, puis vous la faites toujours pour Belle, mm-hmm. est-ce qu'il y a des gens qui se confient à vous? Ah, moi aussi,
oui,
j'ai
mais
la même chose.
Justement, c'est là où ce que, il y a des types que je me tiens avec, que je respecte, qui me disent « Ah oui, vous, mais pourtant, vous êtes bien habillé, vous êtes bien présentable. » Mais ça cache, c'est une manière mm-hmm. de... Et ça m'a rassuré. J'ai beaucoup aimé la manière qu'ils ont emmené quand la machine s'occupe de ça pour dire, donner du respect mm-hmm. à ça. Et étonnamment, je pensais que ça allait m'ouvrir les portes, mais non, seulement on m'a mis dans cette catégorie. Tu vois, j'ai déjà eu les préjugés pour la couleur de la peau et les préjugés de la santé mentale. Ce sont
choses, là, finalement.
Comment ça se fait c'est pas, les gens d'ethnie se disent, comment ça se fait on ne participe pas? Est-ce que c'est une maladie d'avoir une ethnie mm-hmm. Donc, c'est cette manière-là, cette façon de sortir... Le problème de santé mentale est dans les communautés, s'ils sont acceptés, on le vit sans l'exprimer beaucoup. Mm-hmm. On le vit vraiment. Une communauté peut se sentir malade parce qu'elle n'est pas acceptée. Mm-hmm. On le verra sur la communauté amérindienne. On verra vraiment les communautés.
Dans votre cas, il y a comme deux choses. Il y a d'être noir et d'avoir une maladie mentale. Donc il y a deux combats finalement.
Et on n'a pas de porte-parole vraiment pour parler de ce qu'on vit parce qu'on me présente la vie, tout se passe bien. Et les immigrants, les Noirs, se disent comment ça se fait qu'on n'est pas présent alors que la vie, comment ça se fait que c'est comme si on n'existait pas.
Exact.
Cette manière de ne pas exister, c'est qu'on est en train de vendre. Je comprends les gens, ils vendent.
Mais ils
ne sont pas là pour changer la société parce que aussi ils suivent un groupe dans un autre groupe. C'est très, même si le côté affaire est très important parce que les gens doivent se respecter, le boss, on n'est pas là pour révolutionner quelque chose.
On revient tout de suite.
Merci. We'll be right back.
Alors, François Baruel, qu'est-ce qui se passe quand on rit?
Quand on rit, alors là, ça fait beaucoup de bouleversements dans le corps humain. C'est vraiment pas violent d'ailleurs, mais c'est bénéfique plutôt.
Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Est-ce qu'on a, on change, on a mal au ventre, on a, il y a
physique? Oui, si on rit beaucoup, on finit par avoir des courbatures, c'est sûr et certain. C'est un bon exercice d'ailleurs, ça remplace une séance d'abdominaux, pourquoi pas. Mm-hmm. En tout cas, c'est vrai que ça fait travailler le diaphragme, tout à l'heure Linda Leclerc en parlait. Ça facilite aussi le transit, il faut le savoir, puisque ça fait un massage du ventre à force de rire. Ça permet de relarguer des endorphines.
Ah oui ?
Les endorphines, c'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone...
Un peu comme l'amour, finalement ?
Un petit peu comme l'amour, voilà. Et si on combine les deux, je ne sais pas ce que ça ferait, mais ça peut être encore mieux, finalement, hein, pourquoi pas ?
Non, c'est pas bon rire en faisant l'amour. Pour un mec, c'est sérieux.
En tout cas, bon. Mais c'est comme faire du sport, ça relargue aussi des endorphines, et ça permet de se sentir beaucoup mieux après avoir fait du sport. On est bien, on se sent serein.
Alors, les moyens qu'on va trouver pour essayer de rire et de, je veux dire, calmer son humeur ou trouver quelque chose de plus apaisant, on connaît juste les médicaments en ce moment. Est-ce qu'il y a autre chose?
On connaît les médicaments, on pourrait parler des antidépresseurs, on pourrait parler des anxiolytiques, mais en fait, ces médicaments-là ne font pas forcément rire, ils font juste réguler l'humeur ou améliorer l'humeur, mais ça ne porte pas à rire. Pour rire, je pense que c'est plus une attitude, un état d'esprit qu'il faut essayer d'adopter. Je pense que pour rire systématiquement, c'est forcément quelque chose de volontaire. Bien sûr, si on a un esprit qui est tourné vers l'humour ou qu'on est très sensible à l'humour, comme Michel, hein, c'est sûr qu'il doit voir toutes les situations qui peuvent être drôles dans la vie.
Ah non, mais quand même, il faut qu'on explique quelque chose. Comment ça se passe, par exemple, à une journée d'un humoriste comme... quand on a un spectacle, ça va être... Mais la journée avant, on est très sérieux. Est-ce que c'est le gars qui fonctionne? C'est ça. Et là, tu arrives sur scène et tu te laisses... Mais tout le travail qui était là, c'est... Si on voyait un humoriste, c'est loin d'être drôle parce qu'il est très sérieux. Il veut le gag.
Il est torturé, finalement.
Et puis là, quand les gens sont en train de rire, il reçoit tout...
C'est là qu'il largue les endorphines.
Et qu'est-ce que ça fait à Michel Mambara quand il fait rire tout le monde, quand la salle rit à un gag qu'on a préparé depuis des semaines?
C'est comme on dit, un orgasme. C'est vraiment quelque chose que même les gens de sentir. Tu as dit quelque chose, ça fait l'effet de relâcher. C'est merveilleux. J'ai vu d'autres humoristes, c'est-à-dire on travaille pour ce gag-là. Créer, tu dis notre phrase, ça crée encore ce gag-là. Tout le monde en parle de rire, tout ça. Et moi, par exemple, pour ma santé, vraiment quelque chose que je partage, souvent je peux être déprimé. Et l'une des choses, d'ailleurs, c'est une dichotomie. Souvent, vers 14h, je vais nager. Mais de temps en temps, je m'empêche. Je dis, il ne faut pas que j'aille nager, il faut que j'écrive. Je passais 2 heures à 14h et je n'ai rien trouvé d'écrit. Et là, je vais déprimer parce que aller à la natation, je n'ai pas envie physiquement. Je passe une heure, tu sors là-bas parce que, un, tu n'as pas parlé. La respiration que tu as fait cette manière régularisée, tu sors là-bas, la respiration est meilleure. Et par exemple, des fois, je fais ça et tu fais aussi avec le yoga. Tu peux être déprimé, mais tu es dans un groupe avec des gens qui font comme le bébé heureux, qui font des mouvements. Tu sors là-bas, mais qu'est-ce que je ressens? Le corps, ça s'est replacé. Vraiment, c'est comme un médicament.
Le corps, il aide.
Il est tout léger. Vraiment, c'est...
Et justement, on va parler des médicaments. On revient, disons, à la bipolarité. Mm-hmm. On connaît le lithium. Est-ce qu'il y a autre chose en pharmacologie
Oui. Il y a actuellement, on a utilisé beaucoup les anti-épileptiques, qui sont des médicaments, donc évidemment qui évitent l'épilepsie, mais qui sont efficaces dans la bipolarité. Pas tellement, moins efficaces seules que le lithium. Actuellement, on en est à maintenant associer lithium et antiépileptique, ce qui permet d'augmenter l'efficacité de chacun et en même temps de diminuer la dose de lithium, puisque le problème du lithium, c'est que son dosage d'efficacité est extrêmement étroit. Mmh. On est en dessous, on n'est pas efficace. Au-dessus, c'est toxique. et ça risque d'avoir des inconvénients à long terme. Donc on cherche à améliorer les choses en diminuant le lithium.
Mais on n'a pas beaucoup avancé à ce niveau-là.
Justement, en tant que malade, je ne sais pas si je vais demander ça en onde, parce que moi j'avais demandé un antidépresseur, puis le médecin n'a pas voulu.
Non.
Il dit déjà tu es antidépresseur.
Ah, parce que ça ne va pas les deux ensemble.
Ça ne va pas les deux ensemble, en fait.
C'est contre-indiqué,
quelque chose qui m'enlève la déprime, parce que le lithium, ce n'est pas que ça te garde égal.
Ça équilibre, en fait. Hein. Ça diminue les... Ça arrête.
Ça calme.
Ça calme. Oui. Ça diminue les accès dans un sens ou dans l'autre.
Mais
d'accélération ou de freinage.
Moi, c'est quand je vais rencontrer le psychiatre, j'y vais déprimé. Ouais. Oh, la vie est difficile. Je le rencontre... parce que ça, c'est le côté africain. Quand tu rencontres quelqu'un que tu jases... je n'ai pas le droit de dire, oh, ça va pas. Je deviens tout intéressant. Il me dit, mais tu vas bien? Et non.
Non.
Je suis déprimé. Je voudrais laisser un antidépresseur. Il dit, non, ça va te monter en haut.
Voilà. Dis, c'est
monté.
Ça le problème.
Les deux
c'est ça,
ensemble.
Le problème.
Ouais. Pourquoi ça marche pas, docteur?
Parce qu'en fait, ça augmente l'efficacité du lithium et qu'on atteint.
Je voudrais monter voir qu'est-ce qui se passe.
Mais en même temps, il y a une modification de l'absorption du lithium avec certains antidépresseurs, la plupart, enfin beaucoup, et on atteint des zones toxiques. Donc il faudrait baisser le lithium, mais ça devient extrêmement compliqué à régler. C'est pour cette raison. C'est une maladie qui est compliquée. À régler pour obtenir un état constant et un état qui est de bonheur, en fait. Hein, c'est vrai que c'est pas facile. Donc, on peut pas tout mélanger.
Donc, c'est de la chimie du cerveau.
C'est
la
une chimie très fine. Ouais. Très fine. Parce qu'il faut vraiment constamment surveiller sa lithémie. C'est-à-dire la concentration de lithium dans le sang.
Oh, c'est ça qu'il y a aux 3 mois. Mais
c'est aux 3 mois.
Et étonnamment, c'est que moi, le moment où d'aisance que je me sens, c'est même pas au yoga, c'est la natation. Parce que je contrôle mes mouvements et tout est bien et c'est très difficile parce que plus tu le fais, plus ça devient facile. Je pourrais rester 1h30. Les premières 10 minutes sont difficiles. Le corps ne veut pas. Ils sont pas permanents. Ils arrivent comme un deuxième souffle. Il y a des gens qui trouvent ça pendant qu'ils courent. J'ai essayé ça, ça m'énerve, ça me fatigue. Mais la natation,
puis en même temps, on sent pas son corps.
Oui. Et quand tu ressors, au niveau de la respiration, même mon corps, je deviens bien en attendant la prochaine séance.
Mais c'est les endorphines, ça.
Ah, donc il y a quelque chose là-dedans.
Mais bien sûr, quand on fait du sport comme ça, le deuxième souffle, je pense que c'est ça. C'est les endorphines qu'on sécrète au bout d'un petit moment.
Je vais oser, on est en consultation, parler de sexualité. Et vraiment, à un moment donné, quand justement j'ai été coquifié, je pensais que j'étais très mauvais au lit. Et je suis avec une conjointe, ça fait 6 ans, et elle me fait sentir que je suis le meilleur amant. Et ça, au niveau de l'humeur... dis ça parce qu'il y a des moments...
C'est vrai, c'est très important, ça.
Sous les 6 ans, il y a eu des moments, où j'avais des difficultés à monter, à bander, si on peut se permettre. Et je dis, oh, je deviens vieux. Oh mon Dieu, c'est la fin du monde.
Mais non, mais Michel, c'est parce que vous vous convenez l'un à l'autre. C'est pas une question de performance. Il n'y a pas de performance. C'est une question de se convenir l'un à l'autre. Vous
avant, je pensais que j'étais un mauvais amant.
Mais non, il n'y a pas.
C'est... Mais en même temps, c'est comme il y a des moments où tu es fatigué.
À moins de ne pas penser à ce qu'on fait.
Oui, c'est vrai, c'est sur les salés. Et elle m'a donné confiance en disant mais et si par exemple, dans le lit, ça ne fonctionne pas tout d'un coup, mentalement, tu vas déprimer. Et autant, comme on dit, au niveau du travail, si tu perds un travail qui te valorise, et tout d'un coup, ton humeur n'est pas à son meilleur.
Bien sûr.
Voilà. Alors, on arrive à la conclusion, mais on a une question avant. Michel Mambara, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a parlé aujourd'hui dans nos chroniques qu'on a eues?
Et c'est la compassion, mais le problème, c'est justement, c'est comme la natation. Ce que j'ai eu ici, ça va me faire de la peine de le perdre.
Vraiment le
plaisir de sentir, écouter, puis, et que je sais que ça ne sera pas toujours. C'est vraiment comme faire l'amour, c'était bon, est-ce que ça va recommencer?
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises que vous ne saviez pas
au niveau du rasoir? Vraiment, raser de l'autre côté, c'est un choc, et je vais savoir comment je vais faire avec ça. Et sinon, c'est... Au niveau de la médication, j'ai toujours un problème de ne pas savoir comment ça fonctionne. Puis même les médecins, on travaille là-dessus. Et je suis ça de près. Et je vous remercie encore, Madame Stanke. Se sentir écouté, surtout qu'on donne le temps. Des fois, tu sais, je me censurais dans mon livre. Oh non, on peut se permettre. J'ai même demandé si on pouvait me comprendre. Alors, parce que souvent, je pensais que ma diction était problématique.
Mais non, elle va très bien. C'est compris. Quoi les projets en ce moment? Mais on a une question avant de se quitter, là. Les projets, il y a de l'écriture, du spectacle?
Et oui, il y a un spectacle que je prépare au Box Hotel. C'est un endroit, c'est même pas loin d'ici, sur Ontario. Et c'est une amie, une fille, femme que je trouve, Marie-Jeanne, qui a créé un hôtel et fait une émission « Flip tes maisons ». On l'a vu, même à tout le monde en parle. Et elle organise des spectacles de musique, tout ça. Puis, et moi, je vais résider là-bas. Elle va me donner... elle est psychologue aussi. Elle va me donner la suite en disant « Écoute, je suis malade mental, je ne suis pas prêt à aller, venez vers chez moi. » Je suis en train de préparer un spectacle d'une heure pour cet
donc
été.
Donc, on pourra vous voir pour cet
si
été.
S'il n'y a pas de festival d'humour et de juste pour rire, je vais en faire mon propre
mais
festival.
Mais il n'y aura plus...
Tant qu'à atteindre les producteurs, je me produire moi-même.
Ben voilà. Ouais. Hein,
et des amis vont venir. Puis c'est des salles de plein de 70 personnes.
Puis des fois, ça commence comme
personnes.
Ça aussi, ça recommence comme ça, de se produire. Et puis, il y a un producteur dans la salle qui va dire « Ah ben
oui,
moi,
justement.
Je prends. »
C'est des petites salles de 70 personnes. Puis j'invite des amis sur Facebook, venez voir.
Alors, donc c'est ça. Alors, il y a une question qu'on pose... nous avons un médecin avec nous. Quelles questions aimeriez-vous lui poser et que vous n'avez jamais osé lui demander?
Et quels sont les effets à long terme physiques sur le lithium?
Le lithium à long...
Je pose cette question-là parce que les médicaments qu'on m'avait donnés, puis les mêmes tremblaient et ça m'avait inquiété.
En fait, tout à fait. Ce sont des manifestations du cervelet. Le cervelet, c'est une espèce de petit cerveau qu'on a derrière le cerveau, en arrière et dessous. Hein. C'est un deuxième petit cerveau. Ça ressemble un petit peu à ça. Et c'est un peu ça. Et en fait, on a y a des tremblements. En effet, il peut y avoir des tremblements. Il peut y avoir même des troubles de coordination, des mouvements un peu bizarres, des mouvements pas volontaires, des choses comme ça. On peut aussi se mettre à parler moins bien, avoir des difficultés d'élocution. Mais tout ça, je vous rassure.
Mais le cerveau n'est pas affecté.
Non, le cerveau lui-même n'est pas affecté. Par contre, le syndrome cérébelleux, puisque ça s'appelle comme ça, peut quand même gêner la vie en général. Mais tout ça, je vous rassure, c'est quand ça n'est pas bien dosé.
Oui, mais en fait, c'est l'affaire, ça me fait peur quand vous dites ne pas articuler. C'est pas
ça.
Comme si on faisait de l'Alzheimer.
Ça n'a rien à voir.
Ah, tu vois, ça vient de m'arriver. Je viens de voir les
mais
faits.
Mais oui, quelle horreur, quelle horreur. Bah oui. Non, c'est comme quand on lit un dictionnaire médical, on se retrouve toutes les maladies.
Oui.
Hein,
sur Google.
Sur Google.
Est-ce que la concentration n'est pas affectée?
Hein?
La concentration.
Non, absolument pas. Non, ce n'est juste que moteur. Mmh. Hein? Et en fait, ça n'arrive que quand c'est mal dosé. D'accord. Et puis, il y a aussi quelques manifestations, des manifestations au niveau des reins. Et ça, c'est à ce moment-là. Ça aussi, on le concentre, on vérifie plutôt les concentrations. Et on vérifie aussi, on fait des ionogrammes, ce qu'on appelle des ionogrammes sanguins. On ose l'urée. Hein, on vous fait des examens. On vous en fait tous les trois mois. De la même manière,
puis
pour vérifier votre rein.
On me dit, ta lithémie est bonne, mais je ne sais pas comment c'est passé en arrière.
Qu'est-ce que ça veut dire, une lithémie bonne?
Lithémie bonne, ça veut dire que c'est la concentration du lithium dans le sang. La lithémie, c'est comme la glycémie qui est la concentration du sucre dans le sang. C'est pareil. Hein? Mais il faut bien se dire que ce médicament est un médicament qui date de ça fait 40 ans, 50 ans qu'on l'utilise. Les résultats sont phénoménaux. C'est fantastique. Ça a sauvé vraiment beaucoup de gens avec simplement une surveillance régulière. C'est pas dangereux quand c'est bien réglé et bien surveillé. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut pas se dire que ça rend fou. Il faut pas se dire que ça rend malade et que ça tue. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Merci.
Alors, ça répond à la question du médecin.
Mais je verrai à long terme, au moment où je dis, je commence à voir les effets. Je ne les ai pas encore vus apparaître, mais ça peut
ça n'apparaît, ça n'apparaît pas dans votre cas, puisque vous êtes bien surveillé.
Ok, parfait.
Donc, il ne faut pas rater les rendez-vous tous les trois mois.
C'est ça, en fait.
C'est tous les trois mois, ça.
C'est ça, tous les trois mois.
Et on change, est-ce qu'on peut changer la dose?
Absolument, puisqu'en fait, ça dépend du poids. Donc, si on mange beaucoup, si on mange pas beaucoup, enfin, si on grossit, il en faudra peut-être un petit peu plus. Si on maigrit, il en faut un peu moins. Il faut surtout pas se déshydrater. Il faut surtout beaucoup boire.
Ah oui, c'est très important.
On vous l'a dit, je pense.
Oui, oui.
Voilà, c'est ça. Il faut faire attention aussi à manger, ne pas trop manger salé ou d'une manière très régulière.
C'est déjà du sel de lithium. Hein.
Non. Okay, le sel de lithium, c'est sa forme. Okay. Le sel de lithium, c'est la forme d'absorption. Mais ce qu'il faut faire, c'est manger salé régulièrement. C'est-à-dire ne pas manger d'un seul coup trop salé ou ne plus manger de sel pendant quelques temps. Parce que du coup, ça augmente la volémie, c'est-à-dire le volume de sang.
Et boire de l'eau
pour ne pas se déshydrater parce que ça concentre le lithium. Donc il faut avoir toujours le même volume.
Totalement. Justement, quand tu fais du yoga, on sue, puis on a toujours deux bouteilles d'eau. J'ai jamais bu autant d'eau à cause du yoga. Ça me donne
possibilité. Ah, donc plus de 2 litres. Plus que 2 litres.
C'est pas que plus de 2 litres, c'est qu'il faut boire d'une manière très régulière. Parce que la concentration du lithium, on l'a fait un jour. Mais on est hydraté à ce jour-là. Il faut essayer de conserver cette hydratation, la même hydratation à ce jour-là.
Et lithium et vin, bon ménage ou pas bon ménage ?
Pas très bon ménage. Un petit peu de temps en temps, mais pas vraiment bon ménage.
Je vais poser la question, le côté polonais. Et lithium et vodka ? Moi, j'ai pas beaucoup de vin, mais le vodka, c'est pas un bon ménage.
Une toute petite vodka.
J'ai dit, c'est pas un bon ménage, mais c'est
ça que j'ai dit.
Quand on était en Pologne, j'étais normal. On était tout fou en vodka.
Parce qu'elle a la vodka tout le temps. Merci. Donc à Michel Mambara, merci à François Baruel, et aujourd'hui qui reste toujours pendant l'émission, mais qui a vraiment remplacé Benoît Racette, qu'on embrasse. On espère qu'il va bien aller la prochaine fois parce qu'il a une grippe. Et puis merci à nos chroniqueurs, Linda Leclerc, conférencière, formatrice à l'école du yoga du rire, Marie-Ève Coton, ethnologue, ethnopsychiatre, Chantal Goyette, spécialiste du monde des cosmétiques. Et merci à l'équipe, donc Dr Barwell, médecin de famille. Et cette émission n'aurait pas été possible sans Maurice Bolduc à la mise en onde, Christiane Campagna aux communications, Catherine Bourderon et Benoît Racette à la recherche. Qu'on se le dise, s'esclaffer, c'est bon pour la santé, mais rire ensemble, c'est encore mieux. Ici Sophie Stanquet,
François Baruel,
Michel Mambara.
C'est bon pour la santé.
Ah, oui, c'est bon pour la santé, ouais.